franceinter.fr.
Voici le journal de Marc Fauvel. Bonjour Marc.
Bonjour à tous. À la une ce matin, le Brésil suspendu au vote de son Sénat. La présidente Dilma Rousseff n'a jamais été aussi près de la sortie. Elle pourrait être écartée du pouvoir pour 6 mois. Nous irons sur place à Brasilia dans un instant. Émotion au PS et motion à droite. Les fondeurs échouent à déposer leur propre motion de censure contre le gouvernement. Voteront-ils pour autant celle déposée par la droite et qui sera débattue aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Certains dans les rangs du PS appellent les fondeurs à quitter le parti pour rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Une ligne téléphonique pour les victimes des hommes politiques, c'est la Fondation des Femmes qui vient de la lancer. Elle s'adresse aux victimes de harcèlement sexuel. Le procès des LuxLeaks qui s'est achevé hier au Luxembourg, les 3 Français jugés pour avoir révélé les pratiques fiscales du pays seront fixés sur leur sort à la fin du mois prochain. Les paradis fiscaux, les Panama Papers, les solutions aussi face à l'évasion fiscale. Vous en parlez Patrick avec vos 2 invités dans 20 minutes.
La situation des banques françaises aussi à l'égard des paradis fiscaux, évidemment avec le secrétaire d'État au budget Christian Ecker. Et puis d'un magistrat spécialisé longtemps dans la fraude fiscale et sociale, Charles Pratt. Et vos questions au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, après la cérémonie d'ouverture, place à la compétition officielle aujourd'hui à Cannes avec les 2 premiers films en lice pour la Palme. Didier Deschamps qui met fin en suspense ce soir et annonce la liste des 23 joueurs qui disputeront l'Euro. Enfin, un souvenir des verts qui broient du noir. La finale perdue de Saint-Etienne face au Bayern, c'était il y a 40 ans aujourd'hui.
France Inter.
Ce n'est sans doute plus qu'une question d'heure. Le Brésil s'apprête donc à écarter sa présidente Dilma Rousseff à l'issue de plusieurs mois d'un feuilleton politico-judiciaire. Son sort est entre les mains du Sénat, réuni depuis hier à Brasilia, où vous vous trouvez, Mathilde Lemaire. Séance marathon, il est 3h du matin chez vous à Brasilia. Séance marathon qui tourne au supplice pour celle qui est encore ce matin présidente de la 7e puissance mondiale.
Oui, ça fait 17 heures, Marc, maintenant que les prises de parole se succèdent. Un marathon, c'est vraiment le mot. Les sénateurs ont 15 minutes maximum pour s'exprimer. Après, la cloche sonne, le micro est coupé. Des sénateurs parfois très animés à la tribune malgré la fatigue. Cette sénatrice de droite, par exemple, elle invoque Dieu, elle invoque le pape et elle reproche à Dilma Rousseff d'avoir maquillé les comptes pour dissimuler sa gestion, je cite, calamiteuse. Elle est responsable, dit-elle, des 11 millions de chômeurs et de l'inflation à 10%. À l'extérieur du Sénat, l'esplanade des ministères toute proche est à l'image du peuple brésilien, coupé en 2. Au milieu, un mur grillagé, érigé pour empêcher les affrontements. Côté nord, les pro-Dilma. Avec les drapeaux rouges du Parti des Travailleurs, ils appellent à la grève générale. José Mili, fonctionnaire, hésite entre chagrin et colère.
Je suis si triste, c'est un terrible moment pour le pays. Grâce à Lula et Dilma, les plus pauvres peuvent envoyer leurs enfants à la fac, manger de la viande et prendre l'avion. Et ça embête les riches qui ne supportent pas la fin de leurs privilèges. Il faut que le monde sache que ces gens-là sont en train de faire un coup d'État.
De l'autre côté du mur, samba, fiesta, drapeau jaune et vert, on brandit là des pancartes avec écrit « Bye bye chérie ». Un homme porte un cercueil en carton avec écrit en grand « Dilma ». Une fois le vote terminé, tout à l'heure, Dilma Rousseff aura 48 heures pour quitter le palais présidentiel. Les sénateurs, eux, auront 6 mois pour enquêter et sceller son sort définitivement. C'est le vice-président de centre-droit, Michel Temer, son ex-allié devenu son pire ennemi, qui assurera l'intérim.
Merci à vous Mathilde Lemaire en direct de Brasilia avec Philippe Etienne.
Combien de manifestants pour la journée d'action des syndicats et combien de députés pour voter la motion de censure à l'Assemblée? Les opposants à la loi travail vont donner de la voix aujourd'hui.
Avec une question, le 49-3 va-t-il doucher les manifestants ou au contraire gonfler les cortèges à l'heure où l'opposition réclamera le départ du gouvernement cet après-midi à l'Assemblée lors de la motion de censure? Les syndicats opposés à la loi travail battront le rappel des troupes. Nouvelle journée d'action, la 5e pour réclamer le retrait du texte. Des syndicats qui misent sur une extension du domaine de la lutte avec l'entrée en piste des cheminots puis des routiers la semaine prochaine. Manuel Ruffez.
Syndicats, gouvernement, tout le monde va observer à la loupe les rassemblements d'aujourd'hui. Le 49-3 aura-t-il un effet d'entraînement ou bien le contraire, un effet de toute façon maintenant c'est plié, personne ne s'est vraiment tranché. Et quand bien même, si les syndicats pensent qu'a priori il pourrait y avoir du monde, résultat du coup de colère après l'utilisation du 49-3, ils savent bien que c'est sur la durée qu'il faudra juger et donc sur les journées planifiées la semaine prochaine. Celle du mardi qui était déjà pressentie, ce devait être le jour du vote à l'Assemblée nationale, mais aussi celle de jeudi, une idée de la CGT à laquelle semble un peu moins croire Force ouvrière, la CGT qui tente d'unifier les luttes, c'est-à-dire de faire converger la grogne contre la loi travail avec des revendications de secteurs comme à la SNCF ou chez les routiers qui poussent aussi chez les marins et dockers à des grèves illimitées. Pour l'instant, avoue un syndicaliste, on manque de visibilité. Ce sont vraiment les mobilisations de la semaine prochaine qui seront décisives.
Et côté SNCF, c'est confirmé, préavis de grève illimité déposé à partir de mercredi prochain par Sudrail, le troisième syndicat maison. Enfin, la mobilisation gagne l'outre-mer avec une journée de grève générale aujourd'hui en Guadeloupe, toujours contre cette loi travail. Hier, la majorité s'est déchirée en place publique. Il s'en est fallu de peu, de deux signatures seulement, pour que la gauche du PS, alliée aux écologistes et au Front de gauche, ne parvienne à déposer sa propre motion de censure. La gauche qui réclame la tête d'un gouvernement socialiste s'eût été une première parmi les 56 députés qui ont signé le texte. On compte 28 socialistes frondeurs et 4 anciens ministres de François Hollande, Cécile Duflot, Aurélie Filippetti, Benoît Hamon ou encore Thomas Thévenoud. Aucun proche de Martine Aubry, en revanche, n'a signé cette motion. Maintenant, que veulent, que peuvent faire les frondeurs socialistes à moins d'un an de la fin du quinquennat? Eh bien, rendre leur carte et rejoindre Jean-Luc Mélenchon, c'est ce que leur suggère le député PS pro-gouvernement Philippe Doucet.
Les frondeurs, cette petite minorité, finalement n'acceptent pas d'avoir un parti socialiste dans une logique social-démocrate et pensent qu'on peut encore faire ce que j'appelle le socialisme dans un seul pays, ce qui n'existe plus à l'heure de la mondialisation et à l'heure de l'Europe. Quand vous avez des différences de lignes de cette importance, vous avez une recomposition politique. Donc si demain les frondeurs se sentent bien chez Jean-Luc Mélenchon, je suis sûr qu'il sera ravi de les accueillir, comme d'ailleurs lui-même a quitté le Parti Socialiste, sur les mêmes désaccords. On va dire que Jean-Luc Mélenchon était précurseur par rapport à ça. Mais Jean-Luc Mélenchon a au moins eu l'honnêteté de ne pas rester abrité dans la maison socialiste, qu'on critique, mais où quand même fait quand même plus chaud des fois que dehors.
Alors la politique du gouvernement, tu l'aimes ou tu quittes le parti, pas si simple, lui répond le frondeur Alexis Bachelet.
Bah non, je pense que c'est une caricature. Je pense qu'il y a peut-être une volonté d'épuration chez certains. L'ironie de certains collègues qui n'ont pas le courage, eux, de prendre leurs responsabilités et de dire que peut-être ils ne sont plus dans le périmètre des valeurs de la gauche, elle me laisse effectivement très froid.
Voilà, nouvel épisode de La Guerre des Roses au micro de Laurence Perron. Cet après-midi, il n'y aura donc qu'un seul vote, une seule motion de censure, celle déposée par la droite. Les chances de renverser le gouvernement sont quasi nulles, même si les élus du Front de Gauche devraient la voter. De même, peut-être qu'une poignée de frondeurs. Enfin, il avait menacé, montré les dents, mais tout compte fait, le MEDEF ne devrait pas claquer la porte des négociations sur l'assurance chômage. Elles reprennent aujourd'hui et d'après les échos, le patronat sera bien présent à la table des discussions après avoir menacé de la quitter en raison des modifications de la loi travail. Encore une fusillade cette nuit à Marseille. Un homme d'une vingtaine d'années abattu dans les quartiers nord. Possible règlement de compte, disent ce matin les enquêteurs. Quoi qu'il en soit, il s'agit du 12e mort par arme à feu depuis le début de l'année à Marseille. Pour un cas médiatisé, combien d'autres toujours cachés? Parce qu'il faut parfois un coup de pouce pour les convaincre de porter plainte. La Fondation des Femmes vient de mettre en place une plateforme téléphonique destinée aux victimes de harcèlement, mais pas n'importe lesquelles, uniquement lorsque l'auteur présumé des faits est un homme politique. L'opération fait suite bien sûr aux révélations de France Inter et Mediapart au sujet de Denis Baupin. Elle va durer une semaine, Antoine Geoffin.
Il suffit de remplir un bref questionnaire anonyme et de mettre son numéro de téléphone. Des avocats appellent ensuite la victime. Maxime Ruzniewski est l'administrateur de la Fondation des Femmes.
L'objectif, c'est vraiment de dire à toutes les femmes qui ont entendu parler de cette affaire récemment dans les médias, vous vous êtes reconnues dans cette histoire, vous avez le droit avec vous, vous pouvez être aidées. Simplement, parfois, vous ne savez pas à qui vous adresser. Parfois, c'est compliqué d'aller à la gendarmerie, c'est compliqué de trouver un avocat, ou parfois, on n'a pas les moyens. Donc, au sein de la Fondation, on a cette petite armée d'avocates qui sont dès à présent disponibles pour répondre à leurs demandes.
30 avocates bénévoles les aident à trouver des preuves. Y a-t-il des échanges de mails, de SMS? Des personnes peuvent-elles témoigner? Pour Maître Valence Borgia, qui consulte les questionnaires, cette aide est indispensable.
Le processus, le parcours judiciaire d'une victime, on le sait, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il y a des confrontations, il y a la procédure, il y a l'audience qui est un moment compliqué. Et il est évidemment indispensable que les victimes ne soient pas seules et qu'elles soient accompagnées de professionnels de droit qui soient à la fois compétents mais engagés.
Engagés puisque Maître Borgia est prête à assister gratuitement jusque devant les tribunaux une victime de harcèlement qui le demanderait. Pour l'instant, le questionnaire a été rempli par une dizaine de femmes.
Et pour en savoir plus, le site fondationdesfemmes.org, le harcèlement sexuel, quelle réalité en France? Eh bien, un Français sur cinq affirme en avoir déjà été victime dans un sondage élaboré pour BFM TV publié ce matin. La proportion monte à 28% pour les femmes. La mort en direct filmée depuis son téléphone portable, le parquet d'Evry ouvre une enquête après le suicide d'une jeune femme de 19 ans. Elle s'est jetée sous un RER avant-hier dans l'Essonne tout en filmant son geste sur l'application application de vidéo instantanée Periscope. C'est un autre utilisateur qui a prévenu les gendarmes, mais il était déjà trop tard. La victime avait réalisé 4 autres vidéos dans lesquelles elle affirmait avoir été victime d'un viol et désignait son agresseur. Plusieurs proches des victimes des attentats du 13 novembre s'en étaient émus. Le gouvernement fait un geste fiscal pour les familles. Elles n'auront pas à déclarer les revenus des personnes décédées, ni à payer leurs impôts, ni les droits de succession. Mesure exceptionnelle annoncée hier soir par le ministère des Finances. Lanceur d'alerte ou voleur d'informations confidentielles. C'est finalement fin juin que la justice du Luxembourg rendra sa décision dans l'affaire des LuxLeaks. Le procès s'est achevé hier pour les 3 Français jugés pour avoir fait fuiter 30 000 pages de documents montrant les pratiques fiscales du Grand-Duché. Leurs avocats ont plaidé la relaxe, loin, très loin des réquisitions du parquet général qui lui a demandé 18 mois de prison contre 2 des prévenus, Quentin Dickinson.
Cette 8e et dernière audience aura notamment permis aux avocats des 3 prévenus et à ceux-ci de répliquer au réquisitoire prononcé hier par le procureur d'État. En sortant du palais de justice, Antoine Deltour, pris par l'émotion, avait du mal à s'exprimer.
Alors, je suis très heureux que ce procès soit terminé, parce que c'était une épreuve, mais je suis confiant sur l'issue du procès. Par la suite, c'est est-ce que le tribunal va vraiment me considérer comme un lanceur d'alerte, ce que je suis.
Voilà. Son co-inculpé, Raphaël Allais, n'a pas tout compris aux aspects juridiques de son affaire, mais il mise tout sur le contexte politique.
De toute façon, quand on est dans le sens de l'histoire, on ne peut pas demander autre chose que ça. Que les lois européennes, les directives européennes soient appliquées, point barre. Sinon, on sort de l'Union européenne, on prend notre indépendance et on fait autrement. Je sais que les lois européennes sont de notre côté et que s'il le faut, on ira jusqu'au bout.
Autre approche politique que celle du 3e prévenu, le journaliste Édouard Perrin, pour qui le droit à l'information ne saurait être sanctionné.
Même une condamnation, ne serait-ce que l'euro symbolique, pour nous est inacceptable. Et quand je dis pour nous, c'est pas pour moi, Édouard Perrin, sans raisonnement corporatiste du tout, c'est pour la liberté d'informer. Quoi. Et la liberté d'informer, c'est pas une marotte de journaliste. La liberté d'informer, c'est le droit du public à avoir l'information. Toute condamnation serait scandaleuse.
Quentin Dickinson, France Inter, à Luxembourg.
Réponse donc le 29 juin et tout à l'heure, Édouard Perrin, le journaliste Édouard Perrin, racontera son procès. Il sera l'invité de Sonia De Villers dans l'instant M à 9h40 sur Inter. Et puis je vous renvoie évidemment au dossier sur la corruption, le sommet anticorruption avec nos invités tout à l'heure à partir de 8h20.
3 attentats à la voiture piégée dont l'un sur un marché bondé de la ville. La capitale irakienne Bagdad a connu hier sa journée la plus meurtrière de l'année. Dernier bilan de ces attaques, 94 morts et plus de 150 blessés. C'était le dernier grand pays occidental à n'accorder aucun statut aux couples de même sexe. L'Italie a définitivement adopté hier l'union civile homosexuelle. Après un dernier vote des députés, les premières unions devraient être célébrées au mois de septembre prochain. Un long baiser pour lancer la quinzaine. C'était l'image de la cérémonie d'ouverture hier soir à Cannes. Apparition surprise de Catherine Deneuve sur la scène du Palais des Festivals et un vrai baiser de cinéma entre la star et le maître de cérémonie Laurent Lafitte. Côté People aujourd'hui, c'est la journée du beau Georges, Clooney, Himself et What Else qui débarquent sur la croisette aux côtés de Julia Roberts pour le film de Jodie Foster. Mais Cannes, c'est aussi le grand écart. Après les paillettes, place au premier film en compétition pour la Palme d'Or. Et là, c'est parfois un brin moins glamour avec les 2 films présentés aujourd'hui. Parmi eux, Sierra Nevada, film roumain et huis clos de 3 heures signé Cristi Puiu et Eva Bétan.
Ça pourrait être une caricature du Festival de Cannes. Un film roumain de 3 heures sur un sujet minuscule et l'on sort de la projection le sourire aux lèvres. Le sujet, grand classique s'il en est, une réunion familiale. Ici, l'occasion est la commémoration de la mort du père de famille et qui dit famille qui se retrouve dit tout est possible. À cela, on s'attend, mais avec une certaine appréhension. 3 heures quand même. Le chiffre, une fois connu, trotte dans la tête. Cristi Puiu le sait, il l'a voulu, il joue avec nous, il nous tient, disons-le simplement, grâce à l'habileté de sa mise en scène. La caméra est diabolique, qui circule dans cet appartement minuscule et encombré. Ah oui, c'est quasiment un huis clos. Le suspense est maintenu autour d'un argument tout simple. Mais quand va-t-on passer à table? De temps en temps, il faut que la tension explose. Une vieille communiste fait la leçon à la jeune génération. Une information importante est glissée en passant. Ajoutons un humour cinglant, habilement dosé. Et voilà, c'est fini. Déjà ? À Cannes, Eva Bétan, France Inter.
Allez, enfin, si je vous dis Glasgow 76 et les poteaux carrés, c'est un temps que les moins de 45 ans ne peuvent pas connaître. La finale de la Coupe d'Europe perdue par Saint-Etienne face au Bayern le 12 mai 1976, après avoir touché, faut-il le rappeler une nouvelle fois, les poteaux à 2 reprises.
Et la balle n'est pas rentrée.
Et la balle n'est toujours pas rentrée. 40 ans après, ceux qui ont vécu cette finale s'en souviennent évidemment, David Valverde.
Le 12 mai 1976, c'est une défaite. Il y a la fierté du chemin parcouru, d'avoir été la première équipe depuis le stade de Reims dans les années 50 à atteindre une finale, d'accord, mais c'est aussi un traumatisme, la fin d'un rêve pour Marco, assis dans la tribune d'Amden Park.
On est venu pour gagner, on nous a dit qu'on allait gagner, donc c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on est sûr de gagner, et il se passe un truc, on n'est pas en train de gagner, quoi.
Parce que le Bayern n'a rien à faire de la belle histoire des Verts. Les coéquipiers du capitaine Franz Beckenbauer sont d'une rigueur implacable, eux qui courent après leur troisième titre européen de suite. Jean-Jacques compte les minutes.
C'est vrai qu'en tribune, on voit le temps passer relativement vite, puis le coup de sifflet final, et bon, là, c'est un instant qui m'a marqué.
Alors subitement, la tristesse verte s'empare de toute la France et de Glasgow. Marthe était adolescente à Saint-Etienne.
De la peur, de la joie et des larmes. J'en ai encore des larmes. Parce que c'est toute une époque. C'est l'enfance, c'est l'adolescence, c'est plein de choses qui remontent et c'est magnifique.
Magnifique, ce traumatisme qui en fait un souvenir d'une tristesse infinie teintée de la nostalgie d'avoir vécu cela ensemble, unis à Saint-Etienne et partout en France.
Et puis vous n'y échapperez pas, Patrick, qui c'est les plus forts ? Allez, vous pouvez enlever votre écharpe verte, Patrick.
Merci, c'était Marc Fauvel pour le journal sur Inter à 8h16, le temps.